Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Bien, je pense qu'il était très important de vous donner justement le récit de ces apparitions à Juan Diego. Je pense que c'est incontournable de prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé en 1531 à partir de ce 9 décembre jusqu'au 13. Eh bien, non seulement Juan Diego a été favorisé de l'apparition de Marie, mais également son oncle qui était malade. Lui aussi, Marie s'est présentée à lui pour lui parler, pour le guérir de sa maladie. Donc, le neveu et l'oncle seront invités chez l'évêque. Alors, les serviteurs amènent les deux Indiens en présence de l'évêque. Celui-ci se renseigne sur la maladie de Juan Bernardino et lui demande comment il a retrouvé la santé. Comment était la dame qui la lui a rendue? Ayant vérifié les faits, l'évêque amène les deux Indiens à sa ville, c'est-à-dire à sa maison dans la ville de Mexico, et leur offre l'hospitalité durant quelques jours, pendant que s'érige le petit temple de l'Enfant-Reine sur le Tepeyac, où elle était apparue à Juan Diego. On est surpris de voir que Marie va révéler son nom et le nom qu'elle veut, avec lequel elle désire être appelé, non pas Juan Diego, mais à l'oncle. C'est Juan Bernardino qui dit que la Vierge désire être appelée Sainte Marie de Guadalupe. Et l'évêque en comprend la raison, et c'est pour lui un signe d'authenticité de l'apparition. Monseigneur de Zumarraga amène Juan Bernardino dans son oratoire pour lui montrer l'image. Le vieil Indien, stupéfait, y reconnaît Marie telle qu'il l'a vue. Avec Juan Diego, ils en rendent grâce à Dieu. Alors ils vont demeurer quelque temps aux côtés de l'évêque, qui, je pense, est heureux de les avoir avec lui, et les autres d'avoir l'évêque avec eux. Alors, vous voyez, les choses tournent au mieux. Et Monseigneur de Zumarraga va faire en sorte qu'on va construire justement cet oratoire. Ce petit oratoire tout petit, cette maison, et il va confier à Juan Diego la garde du sanctuaire, du nouveau petit sanctuaire. Donc, les gens vont venir. L'évêque va aussi demander à ce qu'on annonce publiquement ces faits, et ils vont montrer l'image qui a été imprimée sur le tilma de Juan Diego. Alors, quelle sera la fin de Juan Diego? C'est assez impressionnant. Donc, on sait que les apparitions sont arrivées en 1531. Alors, vous faites le compte avec moi. Au cours de l'été 1548, le bruit court au Tepeyac que la Sainte Vierge est apparue de nouveau à son messager pour l'avertir que sa fin approche. C'est un bruit. Il n'est pas confirmé. Le 8 décembre, la même rumeur circule. Le 9 décembre, 1548, 17 ans, jour pour jour, après sa première rencontre avec la Vierge, Juan Diego s'éteint paisiblement dans son modeste ermitage de Tepeyac. La Vierge Marie vint certainement le rencontrer de nouveau et lui redire avec toute sa douceur « Mon fils Juan Diego, que j'aime tendrement comme un enfant petit et délicat, tu mérites que je te récompense de ta fatigue. » J'étendrai ta renommée. » Eh bien, Juan Diego avait 74 ans à ce moment-là. Ses funérailles prirent l'allure d'une cérémonie d'action de grâce. On enterra son corps tout à côté de l'ermitage. Mais c'est pas fini. Trois jours après, le 12 décembre 1548, 17 ans, jour pour jour également, après le miracle des roses et de l'apparition de l'image, Monseigneur Zumárraga, dont le sort avait été si intimement et mystérieusement lié à celui de Juan Diego, s'envolait à son tour pour le ciel. Il avait 73 ans. Ce sont des faits étonnants. Ce sont des faits qui nous touchent. Donc, je pense que cette histoire de Notre-Dame de Guadeloupe, eh bien, elle était centrale et elle demeure centrale dans ce parcours que je fais au Mexique. Je peux vous dire que de vous la raconter, c'est quelque chose qui m'impressionne encore beaucoup. Et je continue, parce que lorsque nous sommes partis le lundi, eh bien, j'ai dû m'arrêter pour vous raconter les faits, mais nous sommes arrivés justement à cet endroit, au Tepeyac, que j'ai pu voir. Je m'imaginais quelque chose de plus majestueux ou de plus grand, mais non, c'est très modeste, c'est tout petit. Alors, visite de la chapelle, entourée à l'intérieur de fresques illustrant ce que Juan Diego a vécu. Alors, on a des fresques qui racontent, parce que, vous savez, les images sont importantes. Alors, les gens qui, le peuple aussi, qui ne sait pas toujours lire, peut voir l'évolution et les quatre apparitions, les récits. Ensuite, la guérison de l'oncle. Donc, on voit tout cela dans cette petite chapelle qui est tout en haut du Tepeyac. Alors, c'est quelque chose de simple, de très beau. Nous voyons beaucoup de familles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles. Des enfants, des gens de toutes conditions. Des enfants, des grands-parents, des bébés. Et je me suis même arrêté et on m'a demandé de bénir un petit bébé de une semaine au grand bonheur des parents. Alors, c'est une tradition. Lorsqu'un enfant naît, eh bien, ça ne prend pas beaucoup de jours pour que la famille, toute la famille, les parents, les grands-parents, les deux bords, et bon, les frères, les sœurs, toute la parenté, viennent au sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe présenter à la Vierge de Guadeloupe, l'enfant nouveau-né. Alors, c'est ce que j'ai vécu. Je voyais tant de familles tenir des petits bébés. Alors, j'ai béni un petit bébé de une semaine. Alors, je vous dis aussi que, évidemment, ce sont des gens très religieux qui ont une grande foi. Et parfois, ce sont les plus humbles qui ont une grande foi. Et ça nous éduque, ça nous apprend, ça confirme toujours ce que le Seigneur nous enseigne. Ce sont les humbles, les petits, qui sont les plus grands dans le royaume des cieux. Puis, nous allons descendre et visiter la basilique ancienne, qui est toujours ouverte. Alors, faut vous expliquer aussi le contexte. Cette montagne du Tepeyac, qui était, comme je vous le dis, pas tellement grande, eh bien, était tout près d'un grand lac, à ses pieds. Alors, vous imaginez la petite montagne, il y avait un chemin qui devait contourner, et il y avait un grand, grand lac. Donc, c'est un terrain marécageux. Et encore, à Mexico, nous pouvons nous promener dans des lagunes. D'ailleurs, j'aurai le bonheur de vous en reparler. Et il y a encore de ces marécages. Mais on a asséché ces marais pour pouvoir construire en ces lieux le sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe. Alors, c'est une basilique ancienne et toujours ouverte. Eh bien, comme c'était des marécages et avec le temps, bien la basilique construite sur cet emplacement a été très fragilisée. C'est quelque chose de massif, quelque chose en pierre. Alors, on a voulu faire un important édifice. Bon, beaucoup, beaucoup plus tard, là, c'est pas dans les débuts. La petite maison, le petit oratoire de Juan Diego, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Mais on a agrandi à travers cette basilique, le sanctuaire, si petit, il est devenu grand. Mais comme les sols sont marécageux, tout cela est en train de... En tout cas, tout cela a bougé énormément, tout a bougé. Et quand on entre dans cette basilique ancienne, on a de la peine à garder son équilibre. Tellement le sol a été touché. On entre et, je vous le dis, on marche et faut faire attention. Quelqu'un qui n'y pense pas, eh bien moi je pense qu'il il risque d'aller d'un côté ou de l'autre et de manquer d'équilibre. Il faut faire très attention. C'est toujours ouvert. Alors je me dis, bon, on y va. Certainement que les services de sécurité sont toujours là pour veiller. Évidemment, l'image du tilma, l'image de la Vierge, a été là pendant plusieurs années, là. Mais on a décidé, évidemment, de construire une autre basilique, plus moderne. Et là, on dit que l'architecte a dû planter, mais comme des piloris, là, a dû planter dans les profondeurs, à des mètres et à des mètres et à des mètres de profondeur, pour s'assurer de la solidité de ce nouvel édifice qu'on a construit, où se trouve aujourd'hui, présentement, eh bien, la grande image de la Vierge de Notre-Dame de Guadeloupe, la même, l'identique, qui a traversé les siècles. Bon, je pourrais vous parler de toutes ces études qui ont été faites sur ce tissu, un tissu de fibres qui aurait dû, écouter tous les pauvres porter un tilma comme celui-là. Alors, au bout d'une vingtaine d'années, avec l'usure, le temps, le climat, c'est fait avec un matériel un peu végétal, tout cela finit par se dégrader. Mais non, pas dans le cas du tilma, où l'image de la Vierge Marie est imprimée. On a fait des études scientifiques, on a essayé de comprendre ce phénomène. Eh bien, ça se garde, ça se conserve. Au bout de plus de 400 ans, c'est encore cette image qui est extraordinaire. Les couleurs sont au-delà du réel. C'est très, très, très beau, c'est très touchant de voir cette image. Je vais vous en reparler certainement. Donc, ce 1er février, on est toujours le lundi, là. On vient de faire la grande visite. Bon, nous sommes allés sur le Tepeyac, la petite chapelle. On est redescendu, on a regardé le paysage. Évidemment, c'était très beau. On voit les deux grandes basiliques, l'ancienne, et on voit un petit peu plus loin la nouvelle. Donc, on redescend, et il y a beaucoup de monde aussi qui circule. Il y a des gens qui montent, d'autres qui redescendent comme nous. Et là, on désire entrer dans la nouvelle église, le sanctuaire actuel, où est érigée la porte sainte, parce qu'on attend la visite du pape François. Nous serons, à ce moment-là, au Mexique, en même temps que le pape François. Alors, visiter les lieux avant va nous aider à comprendre, parce que, bon, évidemment, on ne participera pas de façon physique à cet événement où il y a des millions et des millions de personnes, mais nous verrons par la télévision, on va suivre de temps à autre et de façon assez fréquente le parcours du Saint-Père qui se trouve au Mexique à ce moment-là. Nous, on nous a dit, le Père Christian et Guillermo, notre guide, nous a dit, écoutez, dans le sanctuaire, personne ne peut célébrer la messe à l'autel principal parce que il y a toujours, de façon ininterrompue, une célébration. Il y a toujours un prêtre qui préside l'Eucharistie et c'est ainsi parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement de gens. Donc les prêtres ne peuvent pas qu'on célébrer parce que, bon, c'est dans la langue espagnole, ne peuvent pas qu'on célébrer et on a fait une sorte de grande galerie, pensez à comme chez nous, des jubés, là, une grande galerie qui est circulaire où on a érigé de petits autels. Donc les prêtres qui sont pèlerins et en visite, parfois avec 2, 3, 4, 5 personnes, ont la permission de célébrer dans ces petites chapelles, des petits oratoires, à ciel ouvert, ce que je veux dire, il n'y a pas d'appartement avec une porte fermée, ce qui veut dire qu'on entend tout, mais on concélèbre dans notre langue, dans ces petites chapelles qui sont circulaires, devant l'autel principal, qui lui est toujours habité par le mystère eucharistique. Il y a toujours un prêtre. Quand une messe se termine, eh bien, il y en a une autre qui commence, et ainsi de suite. Il y a tellement de monde aussi qui veulent voir la grande image de la Vierge. Alors, je vous en reparlerai, la façon dont on peut déambuler pour la voir. Mais évidemment, ceux qui se trouvent dans le sanctuaire, ceux qui sont à l'autel principal, ont un privilège parce qu'ils la voient de près. Comme ce sera le cas pour le pape François, lui, il la verra de très près. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les sept marches de l'escalier » dont je suis l'auteur. Plus qu'une journée. La clairière était déjà affublée des premiers déguisements. Une petite estrade avait été installée selon les désirs de M. le maire, qui devait ouvrir par un discours les festivités. Banderoles, ballons et serpentins de couleurs dessinaient l'allure que cette journée de compétition allait prendre. Petit Jean s'était entraîné toute la journée. Il avait regardé son arbre près de la fontaine et réfléchissait. Il avait hâte que tout soit passé. Il ne parvenait toujours pas à s'expliquer comment il avait provoqué un tel engouement. Comment comprendre subitement cette levée de tireurs à l'arc, sortant de leur cachette et tout aussi habiles les uns que les autres? Il retourna voir si la jeune fille aux cheveux roux s'entraînait toujours. Avec quelle habileté il la découvrit, atteignant avec chaque flèche le centre de la cible. Allait-il gagner? Allait-il perdre? Ces questions hantaient son esprit. Puis, advenant sa victoire, il se mit à penser aux gens de son village. Allait-il accepter cette royauté qu'il jugerait insouciante, avec ce rêve fou d'atteindre le sommet de l'impossible? Il faisait presque nuit. Fidèlement, la lune et les étoiles le regardaient. Jetant les yeux vers la fontaine, il dit: Pépé Antoine, je ne sais plus. Le dixième jour était arrivé. Les hirondelles dansaient et les moineaux criaient au-dessus du petit village qui s'éveilla au son de la cloche de la petite église Sant'Antonio. Quittant leur maison en habit du dimanche, tous les gens se rendaient à la clairière. Les futurs champions arboraient fièrement leur attirail devant cette caravane humaine qui les entourait. La joie les envahissait, dans ce même but qu'ils avaient de s'amuser, de se parler et d'oublier un peu la lourdeur du quotidien, sans compter bien sûr la compétition qui allait leur donner une reine ou un roi. Déjà, de victorieux noms étaient sortis. Rapidement, la clairière fut remplie de toute cette vie. Des cibles avaient été disposées. Elles étaient nombreuses en considération du nombre élevé de participants. Une équipe bien organisée était sur place et dirigeait tout. Une petite fanfare à droite de l'estrade s'animait peu à peu et se mit à jouer des airs bien connus. Tout le monde était heureux. La musique se tut. Monsieur le maire monta sur la petite estrade et la clairière retrouva son calme. Il fit un petit discours et, avant de terminer, osa se demander en montrant à tous la couronne royale sur quelle tête elle allait tomber. Les gens l'applaudirent, puis se partagèrent ici et là aux endroits des compétitions. Tout avait été rigoureusement planifié, et déjà cris, applaudissements, rires et soupirs de déception se mêlaient aux aboiements des chiens et aux cris des enfants qui pleuraient. La première grande élimination avait eu lieu durant la matinée. Quatre participants s'étaient brillamment illustrés. Le charpentier du village, Joseph le soldat, grand ami du vieux Pépé Antoine, la jeune rousse avec sa longue tresse dans le dos et l'initiateur de tout ce combat qui les redoutait tous. Les quatre compétiteurs s'étaient placés près de la tribune où se trouvait à nouveau Monsieur le maire qui, jouant avec sa moustache, se gonflait de bonheur. Solennellement, il nomma les quatre concurrents devant la foule qui fit un tonnerre d'applaudissements et de sifflements. Puis il convoqua tout son village à reprendre l'intérêt de la compétition après s'être régalé de pâtés, de saucissons, de poulets rôtis, de pain et de foie gras. La fanfare reprit ses refrains favoris et tout le petit village dévorait les mets étalés sur les tables. Jamais on n'avait vu autant de monde ensemble. Quelques vieillards se rappelaient les retours d'après la guerre où la foule se groupait sur la place publique, mais une joie comme celle-ci, c'était tout à fait inédit. Petit Jean ne mangeait pas. Il n'avait pas faim. Il regardait souvent de loin celle qu'il redoutait le plus, la jeune rousse.
Qu'allait-il maintenant se passer? Brusquement, il se leva et se déroba à cette foule qui le rendait nerveux. Il se mit à regarder l'impossible qui se tenait là au fond, devant lui, dans son silence immobile. La peur d'avancer le saisit. Pourquoi fallait-il que tout ce village sache ce qu'il considérait être son rêve à lui seul? Il revint au cœur de la foule en pensant aux paroles du vieux Pépé.
C'est le seul combat qui compte.
Le charpentier était en place, avec la jeune rousse que le sort avait désignée comme son adversaire. La foule retenait son souffle. La lutte fut serrée, mais il fut vaincu par une flèche. Brisant son arc et furieux, il quitta la clairière. C'était au tour maintenant de Joseph le soldat et de Petit Jean. Le silence était lourd, et tous les regards braqués sur eux intimidèrent à un tel point le vieux soldat qu'il se mit à trembler. Il hésitait à tirer. Deux fois, il avait dû baisser son arc. Le silence se fit de plus en plus intense. Prenant une profonde respiration, il banda son arc et tira. Il manqua la cible au cri d'étonnement de tout le village. À son tour, Petit Jean s'avança. Il avait la victoire dans les yeux et atteignit la cible en plein centre. La foule explosa. Joseph le soldat s'avança timidement vers Petit Jean et, refusant de poursuivre la lutte, il lui donna la main. La foule se détendit un peu, et les gens se mirent à parler entre eux. À ce moment solennel, M. le maire jugea bon d'intervenir, et vint se placer tout droit en face de la cible, de manière à pouvoir être vu et entendu par tout son village réuni. Il remercia tous les participants, en faisant sortir de sa voix des accents inaccoutumés, rehaussant ainsi le suspense. Le cœur de Petit Jean battait bien fort, tandis que la jeune fille prenait nerveusement le bout de sa longue tresse rousse.
« Nous aurons un roi ou une reine !» avait crié le maire avec pathos.
La jeune fille toucha le centre de la cible dès la première flèche. Petit Jean sentit tout son être se glacer. Il tira aussi en atteignant la cible droit au centre et en faisant tomber la flèche de sa rivale. On n'entendait aucun bruit. Pour être témoin de cet événement unique dans leur histoire, des enfants et des adultes s'étaient juchés un peu partout dans les arbres. Il fut décidé que Petit Jean allait tirer la prochaine flèche, ce qu'il fit en frappant avec brio le centre de la cible. Déployant toute son habileté, la jeune rousse à son tour tira et fit tomber la flèche du jeune archer. La clairière fut envahie par un tonnerre d'applaudissements. Qu'allait-il maintenant se passer dans ce face-à-face de plus en plus serré? Il fut alors décidé que la cible serait placée plus loin afin de rendre plus difficile la lutte des deux archers. Tandis que l'on déplaçait la cible, la foule se mit à scander.
« Un roi, une reine! Un roi, une reine !»
Le déplacement de la cible les avait situés dans un axe différent, et Petit Jean s'était mis à regarder le soleil en face qui l'aveuglait. Ébloui, il ne parvenait plus à clarifier sa vision, et se mit à frotter ses paupières, ce qui n'arrangeait rien. Un point obscur gênait tragiquement ses yeux. La jeune fille visa, et n'atteignit pas cette fois-ci le centre de la cible, tandis que Petit Jean, se frottant toujours les paupières, s'en éloigna davantage. La foule se mit à bouger et à reprendre son leitmotiv scandé. Elle tira à nouveau et toucha la cible en plein milieu. Cette fois-ci, Petit Jean devait frapper et faire éclater la flèche s'il voulait être roi. Se frottant les paupières comme par habitude, il se plaça dignement et, bandant son arc, il toucha le centre de la cible alors que l'autre flèche resta piquée. La tension venait d'atteindre son paroxysme. C'était au tour de Petit Jean, et il réussit une fois de plus. La lutte allait-elle se poursuivre ainsi indéfiniment? Cette fois-ci, la jeune fille mit du temps. Puis, dans la détermination du geste, elle visa et avec force atteignit le centre de la cible, fendant en deux parts la flèche de Petit-Jean. Stupéfaction! Les gens n'en croyaient pas leurs yeux, à commencer par la jeune fille rousse qui restait ébahie. Un mouvement de foule se déchaîna et s'empara de celle que l'on reconnaissait victorieuse. On la promena sur les épaules de ses partisans en criant presque jusqu'au délire «
Nous avons une reine! Voici notre reine !»
En un instant, toute la clairière s'était animée en petits royaumes qui dansaient comme des farandoles autour de leur reine. Petit-Jean venait de s'écrouler avec son rêve. Son combat s'arrêtait là. Il n'avait pas gagné et c'en était fini désormais. Sur sa chevelure rousse, la couronne étincelait. Elle était là, sous les regards de tous sur l'estrade aménagée par Monsieur le maire qui se tenait bien proche, repeignant comme à l'habitude sa généreuse moustache. Puis, ayant fait taire la foule, il commença son discours en remerciant tout son village pour l'intérêt déployé afin que cette journée fût une réussite. Il déplora bien sûr que tous ne puissent repartir avec la victoire, mais il précisa qu'il fallait se réjouir de cette compétition inédite dans l'histoire de leur village et qui leur avait donné une si belle reine. Les gens se mirent à applaudir et attendaient impatiemment les paroles de celle qui faisait leur fierté. Elle les remercia de leur présence et du soutien qu'ils lui avaient accordé, ainsi qu'à tous les archers participants. Maintenant, tous se demandaient bien quel privilège elle allait s'accorder ou quelle fantaisie tomberait sous le pouvoir de cette reine à ce moment unique de sa vie. Elle se mit à leur dire que sa joie serait celle de tous et décréta une journée de fête pour chaque catégorie de personnes dans tout le village, journée pendant laquelle on ne ferait que ce qu'on aime. Femmes, hommes, enfants, jeunes, vieillards et malades, et enfin toutes les familles ensemble, se partageraient ces journées de joie. C'était pour chacun la libération de toutes les tâches quotidiennes et la possibilité de faire comme en vacances. Relâche pour les femmes, chasse et pêche pour les hommes, verre de bière à la main et pipée pour les aînés, jeu pour les enfants, tandis que les malades pourraient se rendre, aidés par d'autres, jusqu'à l'église Sant'Antonio. Toute cette frénésie n'empêchait pas les gens de se demander ce qu'elle, la reine, allait s'offrir puisqu'elle détenait pour une semaine pouvoir et privilèges. Puis vint ce moment où elle annonça comment elle userait de son privilège de reine. Il fut décrété qu'il y aurait le dernier jour de sa royauté une nuit entière de musique avec danse sur la place publique. Les gens se mirent à l'applaudir à tout rompre.